Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey et tous nos vœux à nos auditrices et nos auditeurs. Dans ce premier numéro de 2021, on vous fait un résumé de l'année 2020 en son avec des interviews et des reportages.
Il y a un an, la réforme des retraites est au cœur des préoccupations des Français et des Burgiens.
La première manifestation se déroule le 5 décembre 2019 à Bourg et rassemble 4000 personnes. Toutes les semaines, quasiment pendant plus d'un mois, des Indinois continuent à montrer leur colère face au projet de réforme des retraites. Rappel des enjeux avec Annie Jolivet, une économiste. Bonjour Annie Jolivet.
Bonjour.
Vous êtes économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail. Alors pourquoi le gouvernement veut faire cette réforme des retraites maintenant ?
L'argument que présente le gouvernement, c'est de passer à un régime plus juste. C'est l'argument essentiel qu'il met en avant. L'idée étant que la juxtaposition des 42 régimes existants créerait des distorsions, alors c'est en partie vrai, créerait des distorsions avec des droits qui ne seraient pas calculés de la même façon selon l'appartenance à un régime ou à un autre. C'est à la fois un problème pour les gens qui sont les moins avantagés, par exemple les retraités du régime agricole sont réputés pour avoir des pensions très faibles. C'est aussi compréhensible quand on envisage la mobilité professionnelle, c'est-à-dire passer d'un emploi à un autre qui n'est pas dans le même régime de retraite. Donc c'est ça que le gouvernement met en avant. Et puis c'est rajouté, plutôt il y a un an et demi, l'idée que les évolutions de la natalité, de la mortalité feraient qu'on ne serait pas dans une position si avantageuse et qu'il faudrait gérer tout de suite un déséquilibre qui pourrait survenir dans le futur.
Donc ce système, le gouvernement le veut universel. Quel serait son impact sur l'économie, les économies des retraités ?
En fait, aujourd'hui, vous avez des régimes qui fonctionnent séparément. Donc pour chaque régime, vous avez un certain nombre de cotisants et vous avez un certain nombre de retraités, avec des rapports entre les deux qui ne sont pas forcément très équilibrés. Quand on fait un régime universel, on va en fait tout mettre dans un pot commun. On va modifier aussi la façon dont sont calculées les pensions pour toutes les personnes qui font partie de ce régime dit universel. Et l'idée du gouvernement, c'est d'uniformiser totalement le mode de calcul des pensions. Donc qu'est-ce qui va se passer si je reprends l'exemple des personnes qui ont des petits emplois très courts, très fragmentés. Donc ceux-là récupéreraient entre guillemets des droits avec des points. Et pour les gens qui sont, par exemple, prenons la SNCF, les gens qui feraient basculer dans ce nouveau système, pour les fonctionnaires c'est la même chose, on perdrait le calcul des droits à pension sur les 6 derniers mois du salaire perçu. Donc en fait l'idée c'est qu'on va faire une sorte de redistribution, on va diminuer les droits à pension pour les gens qui sont les plus avantagés et puis améliorer pour les gens qui sont les moins avantagés. Ça, c'est ce que le gouvernement met en avant. La réalité de tout ça, c'est que pour tout le monde, les droits seront calculés pour l'ensemble de la carrière. Donc on n'éliminera plus les années qui sont moins bien rémunérées, les années pendant lesquelles vous avez pu avoir un salaire plus faible. Ces années-là seront intégralement prises en compte. Donc, du coup, c'est plus flou de savoir qui est vraiment avantagé ou pas. Il y a des régimes qui sont nettement désavantagés. Donc les enseignants sont particulièrement concernés. Des gens qui partent tôt, comme les pompiers, les policiers, ça c'est lié aux conditions d'exercice de leur profession. L'interrogation majeure pour toutes les personnes qui sont concernées, que ce soit en positif, a priori en positif ou a priori en négatif, avec cette réforme, c'est d'arriver à estimer à quel point le niveau de pension auquel ils ont droit aujourd'hui va être touché à la baisse, à la hausse peut-être pour certains, mais pour beaucoup probablement à la baisse, à quel point ça va être touché. Le gouvernement est rentré dans cette réforme en assurant que personne n'y perdrait rien, ce qui semble extrêmement difficile à tenir.
C'était Annie Jolivet, économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail, interrogée en janvier 2020.
La réforme des retraites, un sujet balayé par le coronavirus.
Il devrait réapparaître dès que la situation sanitaire sera sous contrôle. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a déjà mentionné son souhait de faire passer la réforme avant 2022. Quant à Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, il estime que cette réforme est un sujet pour un second quinquennat.
Autre réforme du début d'année 2020, celle du baccalauréat.
Les lycéens et professeurs des lycées Lalande et Kiné notamment demandent le report des E3C, des épreuves de contrôle continu. Ils pointent le manque de préparation. Entre-temps, la pandémie oblige les lycéens à étudier à distance. Les épreuves communes du bac prévues en juin sont annulées et remplacées par des notes des deux premiers trimestres. Et pour 2021, c'est aussi le contrôle continu qui va être privilégié. Les épreuves communes sont cette année aussi annulées.
Le 15 mars, premier tour des élections municipales à Bourg-en-Bresse.
La liste de Jean-François Debat arrive en tête, des suffrages dès le premier tour. Le maire socialiste est réélu pour son troisième mandat. Au conseil municipal sont aussi élus dans l'opposition Oran Réagnan du parti Les Républicains, Michael Ruiz pour La République En Marche et Jérôme Buisson pour le Rassemblement National. Pour une trentaine de communes de l'Ain, le second tour aura finalement lieu 3 mois après le premier tour, à la fin du mois de juin.
Le 17 mars, la France vit son premier confinement.
La plupart des Français sont en télétravail. Les hôpitaux se réorganisent pour accueillir les malades du Covid. Les restaurateurs et producteurs soutiennent les soignants en livrant des repas. Et les citoyens s'adaptent face à cet événement inédit. Retour sur la situation au 30 mars 2020 avec l'ARS, l'Agence régionale de santé.
Bonjour Cécilia Haas.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la communication à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous dire dans l'Ain comment ça se passe en ce moment ? Est-ce que les services de santé sont surchargés ? Est-ce que ça va encore ?
Pour l'instant, et dans la grande majorité des services, les services d'hospitalisation et de réanimation ne sont pas surchargés. Alors, il peut y avoir une activité beaucoup plus importante que d'habitude, surtout en cette période où on arrive en général à la fin de la grippe saisonnière. Mais aujourd'hui, les établissements font totalement face. Ils sont plutôt en attente, justement, d'une augmentation qui pourrait être plus importante. Ce que l'on a fait aussi récemment, c'est qu'on a demandé à tous les établissements qui sont autorisés à pratiquer de la réanimation, d'augmenter leur capacité de réanimation. Donc en fait, ils ont pu mettre des lits supplémentaires à disposition, des respirateurs artificiels à disposition, et grâce aussi au redéploiement des professionnels de santé, on a pu passer au niveau de la région de 550 lits à près de 900 lits de réanimation disponibles en capacitaire totale. Donc parmi ceux-ci, il y a des lits qui sont déjà occupés par des malades, que ce soit du Covid ou d'autres choses, mais en tout, on a pu vraiment pratiquement doubler la capacité. Donc on est quand même encore aujourd'hui, on va dire, dans une période où on est loin de la saturation, mais on sait que ça pourrait venir assez vite et donc on se tient prêt au maximum.
Au centre hospitalier de Fleyrias, les équipes soignantes sont déjà sur le pont depuis un mois. La réorganisation des services a été mise en place pour faire face au possible afflux des malades du virus. Frédérique Labro-Goubi, la directrice du centre hospitalier, se veut rassurante, même si elle ne souhaite pas communiquer les chiffres liés au Covid-19. Elle nous parle de l'atmosphère au centre hospitalier.
Alors l'ambiance, elle est vraiment tournée vers la capacité de s'adapter, d'adapter nos organisations pour prendre en charge au mieux les patients du Covid-19 et nos patients standards. Donc il y a une très grande concentration. On peut pas le cacher, mais c'est propre à tous les établissements de santé. Il y a en même temps forcément une inquiétude sur l'incertitude de savoir quelle va être l'ampleur, le volume de personnes qu'on va être amené à prendre en charge. Donc ça, c'est un deuxième point. Et en même temps, le troisième sentiment d'ambiance, c'est qu'il y a aussi une très grande solidarité entre les services et entre les acteurs pour faire que le centre hospitalier soit capable de répondre à cette situation et à tous ses besoins.
C'était la directrice du centre hospitalier de Fleyrias, interrogée en mars 2020. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé organise la première étape de la vaccination. Elle concerne les personnes âgées des EHPAD, les unités de soins de longue durée aussi, ainsi que les personnels soignants à risque de ces établissements.
Début mai, premier déconfinement.
Dans l'Ain, les parcs, les écoles et les commerces rouvrent, comme Stéphane Grégo, coiffeur à Bourg-en-Bresse. Enfin, nous pouvons retourner chez notre coiffeur. Mais les réservations sont vite parties. Chez Greg Barbier, on est déjà complet pour au moins un mois.
Lucas fait partie des heureux élus. Il se fait couper les cheveux et est ravi de retrouver son fidèle coiffeur.
Ça fait 2 mois hein, depuis le début du confinement. Je n'ai pas pu revenir et heureusement, mon barbier a pu réouvrir lundi.
Dès qu'il y a eu l'idée du déconfinement, le premier truc que vous vouliez faire, c'était le coiffeur ?
C'était le coiffeur, oui et non. Hein. Il y a d'autres choses de la vie aussi. Hein. Se balader déjà, tranquillement. Et ensuite, le coiffeur en obligé pour avoir quand même une belle coupe de cheveux, être présentable. Donc oui, j'ai essayé de prendre un rendez-vous le plus vite possible.
Et donc il n'y a pas eu trop de queue ?
Bah, j'ai eu de la chance en fait. Quelqu'un s'est désisté, sinon j'aurais pu attendre un mois facile.
Visière vissée sur le crâne, Stéphane Grégo, qui tient le salon, s'habitue à son nouvel accessoire.
Quand vous avez eu le déconfinement qui a été annoncé, est-ce que les clients se sont précipités, vous ont appelé ?
Oui, alors j'ai un dispositif de prise de rendez-vous sur Internet et du coup j'ai pu ouvrir les réservations en ligne. Et là, tout de suite, ça a été effectivement une prise d'assaut directe, puisque là, je dois être à peu près à un mois de réservation complet.
C'est quoi qui vous a le plus manqué en fait pendant ces 2 mois sans travail ?
Alors, le plus manqué, c'est les clients, le rapport aux clients, le rapport humain, entre guillemets. Et puis, moi, je suis un spécialiste du rasage et le fait, effectivement, de plus avoir à raser les clients, préparer mes mousses à raser, il y a des gestes techniques qu'on fait depuis 30 ans et qui effectivement, m'ont manqué. Bon, j'ai rasé mon fils de 13 ans qui était très, très enchanté de passer sous ma lame.
Donc au niveau des coiffures, on a vu sur les réseaux sociaux justement que plein de gens voulaient se coiffer eux-mêmes parce que c'était beaucoup trop long, que ça n'allait pas. Oui. Est-ce que vous avez eu des catastrophes ces temps-ci à rattraper ?
J'ai déjà eu un ou deux clients bien bien impactés, on va dire. Demandez à Lucas, par exemple.
Bah écoutez, j'ai essayé de me couper les cheveux tout seul. On va dire que j'ai fait un casque, quoi. Donc j'étais bien content de retrouver mon barbier.
Là, la catastrophe était limitée, donc non, il n'y aura pas de problème.
Est-ce qu'il y a eu d'autres cas comme ça en quelques jours, là ?
Pour l'instant, j'ai eu 2 ou 3 cas de clients qui ont eu une coiffeuse à domicile qui devait être donc, leur épouse, je présume. Et effectivement, il y a quelques lacunes encore à combler.
Vous êtes content de retrouver vos clients, même s'il y a des conditions ouais. Un peu particulières. Ça va quand même, le moral ?
Ah oui, là, on est à fond. On est à fond. On est super contents. Non, tout va bien.
Stéphane Grégo, coiffeur et barbier à Bourg-en-Bresse.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Au printemps 2020, 2 décrets sont publiés pour verser des primes exceptionnelles au personnel soignant mobilisé pendant la crise.
C'est à cette période, précisément le mardi 16 juin, que pour la première fois partout en France, des soignants se mobilisent. À Bourg, suite à l'appel de la CFDT, ils se rassemblent devant l'hôpital Fleriat, le centre psychothérapique de l'Ain ou encore dans certains EHPAD. En fin d'après-midi, ils se retrouvent devant la préfecture où la secrétaire générale de la CFDT de l'Ain est reçue pour faire remonter les revendications.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors Annick Jelin, je suis secrétaire CFDT de la section du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé cette crise ? Quelles ont été les failles dans la gestion de l'État au sein de l'hôpital ?
Le matériel n'a pas été là, donc on a eu des ordres et des contre-ordres au départ. Et puis le matériel est arrivé, alors après on a eu des dons, bien sûr, on a eu la population nous a énormément aidé par rapport à ça. Beaucoup d'entreprises ont joué le jeu et nous ont transmis aussi du matériel, des surblouses, des masques, des visières, voilà. Donc oui, effectivement, on peut commencer par là. Après, ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs. Donc on fait tout dans la précipitation. Sans prendre compte de ce que les agents, dans quelles conditions les agents vont travailler et dans quelles conditions on va pouvoir accueillir aussi les patients.
Au quotidien, vous pouvez nous dire comment vous vous sentiez pendant cette période ? Quels étaient les ressentis dans vos équipes ?
On reste avant toute chose des soignants. Au moment de la crise, je dirais que tout le monde s'est investi par rapport au travail fourni. C'est maintenant qu'on a des retours où les gens commencent à fatiguer, ils sont épuisés. Là, si on avait à avoir une deuxième vague, je ne sais pas comment ça va se passer.
Aujourd'hui, c'est à l'État que vous en voulez, en fait.
C'est les dégradations que nous dénonçons depuis des années.
Et est-ce qu'il y a eu quand même des côtés un peu positifs ou des choses que vous avez apprises pendant cette crise ?
Moi, ce que je retiens de cette crise, c'est que l'hôpital a su vraiment se mettre très rapidement en œuvre pour accueillir les patients. Et ça, c'est vraiment génial. Dans des conditions dans lesquelles on travaille à l'heure d'aujourd'hui, et avoir une mobilisation de tous les agents, une direction qui a su aussi faire quand même le nécessaire, hein, puisque sans la direction, on n'aurait peut-être pas pu non plus s'investir autant. Voilà. Donc oui, les soignants sont là, sont présents, et le travail s'est fait. Et ça, moi, je tire mon chapeau, franchement.
Vous pensez qu'il a fallu cette crise pour que l'État se bouge enfin ?
Je ne sais pas si l'État va réellement se bouger. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a fallu cette crise pour que les gens se rendent compte de l'utilité de l'hôpital public.
Une mobilisation pour demander plus de moyens, de meilleures conditions de travail et aussi peser sur le Ségur de la santé, lancé fin mai par le gouvernement.
On le rappelle, Ségur comme avenue de Ségur, l'une des entrées du ministère de la Santé. Derrière ce nom, des concertations pour répondre à la crise du secteur médical, social, paramédical. De ces échanges doivent naître les accords de la santé.
Le 30 juin, les soignants, le personnel médical et paramédical est de retour dans la rue pour peser sur les futures décisions du gouvernement.
Au même moment, la saison estivale commence dans le département. Certains événements comme le Tour de France sont reportés et d'autres annulés. Plusieurs lieux touristiques rouvrent peu à peu leurs portes. Le département de l'Ain et Intourisme lance un plan de relance et de soutien au secteur touristique.
Mardi 1er septembre, la majorité des élèves retournent en classe.
À l'école où le masque devient obligatoire à partir de la 6e, une rentrée pas comme les autres, des professeurs masqués, lavage des mains obligatoire. Certains élèves revoient leurs camarades et professeurs après 5 mois d'absence. Reportage à l'école primaire Charles Péguy à Bourg-en-Bresse.
Est-ce que tu es content d'aller à l'école ?
Non !
Oh,
je veux pas aller à l'école.
C'était bien à la maison ?
Oui.
Alors tu penses quoi de cette rentrée ?
Bien.
Est-ce que t'as pas peur avec tous ces trucs de masques, etc. ?
Un petit peu.
Tu t'appelles comment ?
Shaina.
Shaina, alors qu'est-ce que tu penses de cette rentrée ? Comment tu te sens ?
Bien. Moi ça va. Après je suis un peu timide, alors après ça va aller mieux.
Je suis contente. On n'a pas pu bouger d'ici, si on est contente que ça va commencer l'école.
Bah oui, non, contente qu'ils reprennent le chemin de l'école, c'est important. Ils ont été assez à la maison. On a fait le suivi quand même à la maison, mais on n'est pas maîtresse et maître, donc pour moi c'est bien, je suis contente. J'ai pas spécialement de crainte parce que bon bah je travaille, donc ils étaient déjà gardés, donc pas de soucis. Je sais que l'année dernière, ça s'est bien passé. Moi, ils sont retournés après le confinement. Ils sont retournés à l'école. Il n'y a pas eu de soucis. Ils se lavent bien les mains. Les règles sanitaires sont respectées. Donc, non, il n'y a pas de soucis.
Les garçons, Iliès, une fois qu'on s'est lavé les mains, on s'en sort. Merci.
Flora Mandrillon, nouvelle directrice à l'école Charles Péguy. L'année dernière, j'étais déjà directrice, mais au PAYGEX. Voilà. Donc, c'est ma deuxième année en tant que directrice.
Comment on se prépare à une rentrée un peu particulière cette année ?
On suit le protocole sanitaire qu'on nous a donné et on essaye d'anticiper et surtout de prévenir les parents.
Donc là, vous vous sentez comment pour ce premier jour ?
Pour le moment, sereine. J'espère surtout que les enfants vont pouvoir avoir une rentrée tout de même enthousiaste, malgré le fait que l'on porte des masques. Mais je pense qu'une fois qu'ils seront dans l'école et qu'ils auront retrouvé leurs copains, tout devrait bien aller.
Et comment vous appréhendez le fait de faire cours avec un masque ?
On ne l'appréhende pas forcément, on verra comment ça se passe et surtout je pense qu'il faudra parler un peu plus fort.
Le 1er septembre, c'est aussi le jour où le port du masque devient obligatoire dans les entreprises et à l'extérieur dans certains endroits comme les marchés dans toutes les communes de l'Ain.
Le dimanche 13 septembre, le Tour de France arrive au Grand Colombier.
Et comme prévu, le départ de la 19e étape se fait de Bourg-en-Bresse le 18 septembre au pied du monastère royal de Brou. C'est aussi à cet endroit que nous installons un studio pour une émission spéciale en direct. Gilles Bouvard, ancien coureur cycliste qui a participé à 4 Tours de France, est l'un de nos invités.
c'est le départ. Les cyclistes sont partis et vont passer devant nous dans quelques secondes, devant le monastère royal de Brou. Ils avancent tranquillement parce que c'est un départ fictif. On le rappelle, le vrai départ sera route de Jasseron, avenue de Jasseron. Ah, ils sont là.
Oui, ça y est, ils passent devant nous, les premiers coureurs.
Ils sont précédés par un motard, une voiture.
Les gens qui commencent à applaudir.
Avec les drapeaux, ici c'est l'un. Les caméras sont là.
L'hélicoptère et puis les voitures derrière, des équipes qui passent avec les vélos sur le toit.
En cas de problème.
Ça y est, l'hélicoptère est vraiment juste au-dessus de nous, donc il faut forcer un petit peu. Ah, on a la France Télévisions devant les yeux, on voit qu'ils sont en train de filmer le monastère royal de Brou. On retrouve Gilles Bouvard. Parce qu'on...
Gilles Bouvard était parti jeter un œil sur les cyclistes.
Comme ça, il va pouvoir, avant que Alain nous parle du maillot jaune, on va pouvoir avoir des petites réactions de Gilles Bouvard. Si vous voulez bien nous dire un petit peu ce moment que vous avez vécu en direct. Vous avez vu passer les coureurs, racontez-nous.
C'est beaucoup d'émotions, des souvenirs. C'est vrai qu'une petite larme à l'œil.
Mi-octobre, des soignants sont de nouveau mobilisés. Ils réclament une augmentation de salaire plus importante et des embauches.
Un peu plus de 8 milliards d'euros, c'est ce que prévoient les accords du Ségur de la Santé. Des milliards, comme l'annonce le ministère de la Santé, pour revaloriser les métiers des établissements de santé, des EHPAD et pour l'attractivité de l'hôpital public. Les accords du Ségur de la Santé ont été signés en juillet dernier par les syndicats FO, CFDT et l'UNSA. Ces derniers prévoient entre autres une augmentation générale de 183 euros net pour les agents hospitaliers. Ça ne concerne pas les médecins. Les secteurs médico-social et du handicap ne sont pas inclus. Des soignants sont dans la rue le 13 octobre pour que ces secteurs soient concernés.
Le 14 octobre, face au regain de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron, le président de la République, annonce un couvre-feu de 21h à 6h en Ile-de-France et dans les métropoles comme Lille, Marseille et Lyon.
Une semaine plus tard, Jean Castex, le Premier ministre, annonce que d'autres départements passent sous couvre-feu. L'un en fait partie.
Le 18 octobre, un millier d'Indinois se sont rassemblés devant la préfecture à Bourg-en-Bresse en hommage à l'enseignant décapité dans les Yvelines. Il avait montré pendant un cours sur la liberté d'expression des caricatures du prophète Mahomet publiées par Charlie Hebdo.
Le 28 octobre, lors d'une nouvelle allocution, Emmanuel Macron annonce un deuxième confinement national prévu pour durer au moins 4 semaines. Les mesures comme l'attestation dérogatoire de déplacement, la fermeture des commerces dits non essentiels, comme les cinémas, restaurants ou encore les librairies, sont mises en place le 30 octobre. Les étudiants du campus de Bourg sont priés de rester chez eux. À la différence du premier confinement, les écoles, collèges et lycées restent ouverts.
Et fin novembre, de nombreuses manifestations animent les rues de Bourg-en-Bresse.
Place de la Comédie, le projet de loi de sécurité globale est au cœur des inquiétudes. Un rassemblement à l'appel du collectif antifasciste de l'Ain, suivi par des associations politiques et syndicales. Selon le ministère de l'Intérieur, ce projet de loi a pour ambition de protéger ceux qui nous protègent dans un contexte de défiance contre les forces de l'ordre. Plusieurs articles font débat et en particulier le numéro 24. Il prévoit un encadrement des vidéos permettant d'identifier des policiers ou gendarmes. Une atteinte à la liberté d'expression et d'informer selon les opposants. Le projet de loi de sécurité sera examiné en mars prochain au Sénat avant de revenir à l'Assemblée.
Et une autre manifestation se déroule en même temps devant la préfecture à Bourg-en-Bresse.
Restaurateurs, éleveurs, producteurs et des citoyens venus les soutenir. Les métiers de bouche font entendre leur détresse. Eux qui espéraient rouvrir en décembre restent porte close et ceci au moins jusqu'au 20 janvier prochain. Ces responsables d'entreprise le disent, ils sont en grande difficulté et s'inquiètent pour leur avenir.
Je m'appelle Benjamin Martinetti, je suis chef et gérant de l'Auberge Nantaise avec ma femme Hélène. Nous on a envie de bosser, faire moins de monde, pas de problème, mais on veut travailler, c'est tout ce qu'on demande.
Et donc vous, votre situation financière aujourd'hui, elle est critique ?
Elle n'est pas critique, elle est très critique. Nous en ce moment, les seules aides que nous avons, c'est 1500 euros. Mais avec 1500 euros, on paye que notre loyer en fait. On paye pas les autres charges et il nous en manque encore 8000. Donc ces 8000, on travaille d'arrache-pied à faire des plats emportés pour essayer de se maintenir à flot. Parce que c'est pas évident. Hein. Dans la restauration, il n'y a pas de très grosses trésoreries. Donc ça travaille souvent en flou tendu. Nous, on n'a rien personnellement. Depuis le mois de mars, on s'est versé deux salaires pour deux personnes qui travaillent. Mais on a aussi deux enfants, donc C'est compliqué. On va voir comment décembre va se passer. Décembre, c'est un mois clé, là. Si en décembre, on fait rien, on risque de fermer, ouais. C'est sûr.
Et donc là, votre stratégie pour décembre, si vous pouvez pas rouvrir en présentiel avec vos clients, c'est quoi?
Là, ce qu'on va faire, on va mettre en place des plats typiquement Noël pour les fêtes, pour les familles, pour des 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes. Et puis, on va essayer de taper sur ça et vendre du foie gras, du saumon, enfin des produits très festifs.
Vincent Guillermin, éleveur de volailles de Bresse à Courmangou. Je suis installé depuis 2016. Alors ma présence aujourd'hui, c'est un soutien total à nos amis restaurateurs et métiers de bouche, parce qu'aujourd'hui, on travaille essentiellement avec la restauration et les métiers de bouche. Et la filière Bresse est déjà un petit peu en difficulté, donc un deuxième confinement, c'est limite la mort de beaucoup d'exploitations à terme. Alors moi, aujourd'hui, mes pertes, je peux les chiffrer, on va dire une perte de 80% du chiffre d'affaires, sachant que je fais essentiellement mon chiffre d'affaires sur les périodes festives. Donc aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir travailler avec des restaurants me pénalise énormément.
Donc concrètement, là, vous avez élevé des volailles toute l'année. S'il y en a trop, vous allez en faire quoi, en fait?
Alors concrètement, moi, mes volailles ont été mises en place au mois de février. Donc au mois de février, on parlait du Covid, mais pas avec les pandémies qu'on connaît maintenant. Donc s'il y en a trop, malheureusement, bon, elles seront abattues, elles seront mises en surgélation. Enfin bon, voilà quoi. Après, la problématique, c'est que moi, un chapon de Bresse, je ne pourrais pas forcément le vendre en chapon de Bresse au mois de janvier, parce que forcément, j'aurais pas l'appellation, j'aurais pas le... Donc c'est un produit qui sera à terme passé en simple poulet. Donc une grosse perte de revenus par rapport à ce produit-là.
On a eu un premier confinement, on a tous pris des mesures, pour certains, pour coûter de l'argent, moi le premier. Et alors d'aujourd'hui, retour à la case départ, et puis combien de temps, je ne sais pas, stop, voilà, stop.
Avec la deuxième vague sanitaire, le moral est mis à mal et les psychanalystes et psychiatres redoutent une troisième vague, celle de la santé mentale, selon les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Selon les chiffres de Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, les états dépressifs ont doublé chez les Français entre fin septembre et début novembre. Ils touchent toute la population et particulièrement les plus précaires. L'organisme constate aussi le doublement du taux d'anxiété entre 2017 et mars 2020. Les troubles du sommeil ont aussi augmenté. Nicolas Franck, médecin psychiatre au centre hospitalier lyonnais Le Vinatier et auteur de « Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'odyssée du confinement », il a réalisé au printemps dernier, en plein confinement, une enquête sur le bien-être mental auprès de 20 000 personnes. Après le confinement, vous avez observé quel changement de comportement?
Mais du point de vue de leur santé mentale, il y a eu un regain d'espoir et une disparition finalement, chez la plupart d'entre nous, des difficultés qui avaient été créées par le premier confinement, mais pas chez tout le monde. Chez certains, il y a eu des traces anxieuses qui sont restées, et chez d'autres, des traces dépressives qui sont restées. Moi, en tant que psychiatre, j'ai vu beaucoup de personnes en difficulté qui venaient consulter dès l'interconfinement, donc printemps, fin du printemps, été, des personnes qui venaient voir un psychiatre ou un psychologue pour la première fois de leur vie. C'est-à-dire qu'une marque avait déjà été laissée dans l'esprit des personnes, et leur santé mentale avait déjà commencé à s'altérer de manière collective. Et puis, les mesures de l'été... Le reconfinement, tout ça a donné un deuxième coup de massue avec beaucoup plus finalement de demandes chez une partie de la population.
Et donc est-ce qu'on peut dresser un profil un peu des personnes les plus fragiles dans une période comme celle que nous connaissons où ça reste aléatoire?
Bien sûr, ça reste aléatoire, il y a des facteurs très personnels, mais quand même l'étude dont les résultats sont explicités en détail dans le livre Covid-19 et détresse psychologique, cette étude-là montre que certaines catégories de population ont été plus affectées en moyenne que les autres. En particulier les personnes sans emploi, donc volontiers avec une précarité financière, les personnes qui avaient déjà des difficultés psychiatriques ou psychologiques, les personnes qui étaient isolées, qui étaient confinées seules, et puis finalement les plus jeunes, les étudiants.
Radio B. Radio B.
Le 15 décembre, comme nous l'avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape, mais les règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. Première décision, les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus.
Je suis Christophe Bernard, le gérant du multiplex Amphi et du cinéma La Grenette sur Bourg-en-Bresse.
Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vos établissements n'ouvriraient pas avant 2021 ?
Très décevant, parce qu'on comptait vraiment sur les vacances de fin d'année, les vacances de Noël, pour déjà donner un peu de choix aux gens de sortir et de se faire plaisir, parce que le cinéma avant tout est un plaisir. Hein, c'est une sortie familiale, donc familiale avec aussi quand même la distanciation, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y en a jamais eu au cinéma, on a toujours suivi les protocoles. Donc très décevant parce qu'on ne peut plus ouvrir au moment des périodes de fête où on peut à peu près équilibrer notre activité, quoi. Parce que maintenant, c'est réouverture peut-être le 7 janvier, mais hors vacances scolaires, c'est-à-dire avec beaucoup moins de monde dans les salles. Et puis le protocole sanitaire va être durci, le couvre-feu à 20h qui ne nous arrange pas. Déjà le 21h ne nous arrangeait pas, mais là 20h c'est plus possible. Donc il n'y a plus aucune séance en fin de journée. Ça nous ferait démarrer la dernière autour des 17h pendant que les gens travaillent. Donc en dehors du week-end qui est plombé par le couvre-feu, on ne peut pas faire recette, c'est pas possible. Donc si c'est pour une réouverture des cinémas à perte, c'est encore la trésorerie qui va payer les pots cassés, quoi.
Et financièrement, ici à l'Amphi à La Grenette, comment vous vous en sortez ?
Ben, financièrement, on tape dans la trésorerie qui font à vue d'œil. Pour l'instant, on a mangé deux tiers de notre trésorerie depuis le premier confinement. Mais on minimise tous les frais annexes, hein, tout ce qui est prêt est décalé, le chauffage est coupé, hein, on est au minimum. On fait tourner de temps en temps les machines pour pas perdre les mémoires. Donc, mais voilà, on minimise vraiment nos charges un maximum. Donc on sait que l'année 2021 va être très dure. De toute façon, il nous faudra plusieurs années pour revenir à un système normal.
Christophe Bernard, le gérant des cinémas burgiens, l'Amphi et la Grenette. Des cinémas toujours fermés, comme les théâtres et les musées. Vincent Rochelécal, directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse. Et Pierre-Jules Giraud, l'administrateur du monastère royal de Broue, était dans nos studios avant les vacances de Noël. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que votre établissement n'ouvrirait pas avant 2021 ? Vincent Rochelécal.
On est passé par beaucoup de sentiments. Un sentiment de dépit, un sentiment de colère, un sentiment de fatalisme, un sentiment... On est passé par beaucoup de sentiments et il s'est passé 5 jours depuis et je continue de naviguer entre ces différents sentiments.
Pierre-Gilles Giraud.
Bah, un petit peu la même chose, hein. Une déception, une forme de colère, d'incompréhension aussi sur la nature de la mesure s'adressant à des établissements qui ont tous fait des efforts importants de respect des normes sanitaires les plus strictes.
Quels seraient vos vœux pour 2021, Pierre-Gilles Giraud ?
On aimerait bien que ce soit une année moins chaotique. On se demande aussi quand va commencer véritablement cette année 2021. Le 7 janvier, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, l'a rappelé, ça n'est qu'une clause de revoyure. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à imaginer que le pic épidémique sera retombé juste après les fêtes. Est-ce qu'on va être aligné sur la date des restaurateurs du 20 janvier, si tant est qu'elle-même soit respectée ? Cette imprévisibilité est effectivement compliquée à gérer, à la fois pour les responsables, pour les équipes, et puis pour le public qui nous manifeste également des marques de sympathie et voire d'impatience.
Vincent Rochelécal, vos vœux pour 2021 ?
Je pense qu'on peut imaginer des vœux de santé. Enfin, ça, je crois que chacun en prendra son parti. Non, pour mon secteur, pour le secteur culturel, peut-être deux vœux. Un vœu pour ceux qui l'organisent et un vœu pour ceux qui l'apprécient. Pour ceux qui l'organisent, j'ai senti dans cette année 2020 que la manière dont habituellement on organisait tout ça a volé en éclats et qu'on a imaginé d'autres possibilités. D'organiser les calendriers, d'organiser le soutien aux artistes, d'organiser la rencontre. Et donc je souhaite que tout ça ne revienne pas complètement en arrière quand la crise sera derrière nous ou un peu mieux maîtrisée. Donc je souhaite que la culture prenne vraiment l'ambition de ce qu'elle s'est promise à elle-même. Et puis le second vœu, c'est peut-être en direction des usagers. Il va falloir beaucoup d'ambassadeurs, de motivation pour aller peut-être pas reconquérir nos plus fidèles. Ils sont là, ils nous le témoignent, ils attendent que ça, mais les plus occasionnels. Je suis assez inquiet sur ce sujet-là, sur la question des usagers ou des spectateurs aux plus occasionnels qui ont un petit peu disparu de nos radars depuis septembre. Et j'espère qu'on sera quelques-uns à aller leur redire que c'est aussi pour eux.
À vous les Burgiens, spécial rétrospective 2020, c'est terminé pour aujourd'hui.
Merci pour votre écoute et belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.